France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
L'homme de Denisova a enfin un visage. Depuis la découverte il y a 15 ans de cette nouvelle espèce humaine, on se demandait bien à quoi elle pouvait ressembler. Quel portrait robot pouvons-nous en faire ? C'est grâce au progrès de la paléogénomique que cette espèce a été identifiée en 2010. Découverte uniquement par son ADN, elle ne nous a légué que de rares vestiges. Quelques fragments de phalanges, vieux d'environ 40 000 ans, des molaires et des mandibules, bref, un matériel fossile très limité. Depuis cet été, un crâne lui a été réattribué, offrant enfin un visage à ce mystérieux cousin asiatique de Néandertal. Comment paléanthropologues, généticiens et biologistes moléculaires unissent-ils leurs forces pour compléter ce portrait et pour mieux éclairer le peuplement de l'Asie au Paléolithique? Denisova, à visage découvert. Sylvana Condémy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléanthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS, équipe ADES à l'Université d'Aix-Marseille, et vous avez publié l'an dernier L'énigme Denisova aux éditions Albin Michel, un ouvrage coécrit avec François Savatier. Jean-Jacques Hublin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléanthropologue, professeur au Collège de France, à l'Institut Max Planck et membre de l'Académie des sciences. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation, ici, en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Blue Sky. On ajoute pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment la paléogénétique et la paléoprotéomique viennent-elles au secours du passé? Comment reconstituer de lointains mouvements de population? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, avant de raconter comment la science avance pour mieux saisir l'histoire de Denisova, on a la chance d'être en compagnie de quelqu'un qui a assisté à la naissance de cette espèce. Jean-Jacques Hublin, c'est vous. On peut raconter comment justement l'espèce de Denisova a vu le jour. Comment cette rencontre s'est-elle faite ?
Bien, si on remonte dans le passé, il y a environ 100 000 ans, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un monde très différent du monde d'aujourd'hui, où il n'y a qu'une seule espèce humaine qui peuple la planète. On est dans un monde où il y a plusieurs formes humaines sur la planète. Alors, la plus connue, en dehors de l'homme moderne, c'est l'homme de Néandertal. Et donc, depuis un peu plus de 20 ans, on sait extraire de l'ADN d'ossements d'hommes de Néandertal. Et donc, on a commencé à séquencer ce génome. Une séquence relativement complète a été publiée en 2010. À l'époque, évidemment, mes collègues paléogénéticiens à l'Institut Max Planck de Leipzig sont à la recherche de tous les échantillons possibles d'ossements néandertaliens où ils peuvent récupérer de l'ADN. Et donc, on leur passe un petit bout d'une phalange qui vient d'une grotte qui se trouve dans l'Altaï russe, qui s'appelle la grotte de Denisova. C'est un nom qui vient du nom d'un ermite, l'ermite de Nice. Et donc, ils espèrent trouver de l'ADN de néandertalien de très bonne qualité. Pourquoi ? Parce que c'est un peu un réfrigérateur, cette grotte, et le froid, c'est très bon pour la conservation de l'ADN ancien. Et donc, quand ils séquencent cet ADN, surprise, ça n'est pas du tout de l'ADN d'homme de Néandertal. Ça n'est pas non plus de l'ADN qui ressemble à l'ADN des hommes d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que on donne ce nom de Denisovien à cette forme nouvelle, dont on ne connaît pas très bien l'aspect anatomique, puisqu'on a très très peu de vestiges. Cette phalange, c'est une demi-phalange de l'extrémité du petit doigt d'une petite fille. Donc, vous voyez, c'est un tout petit bout d'os. Et on décrit pour la première fois donc ces Denisoviens grâce à leur ADN.
Grâce à cet ADN qui était en effet d'excellente qualité, Sylvana Condémy, on pensait avant cette analyse qu'on avait trouvé une population de Néandertaliens un peu différente, et puis finalement c'est bien plus que ça.
Oui, parce que ce qui se passe, c'est qu'autour de la grotte de Denisova, il y a d'autres grottes qu'on connaissait, que nos collègues soviétiques et russes avaient fouillées, et dans lequel il y avait donc des Néandertaliens. Donc c'est vrai que c'était pas étonnant que les collègues russes donnent ce petit fragment pour augmenter l'échantillon disponible de Néandertaliens qui pouvaient être séquencés. Donc, c'était une surprise pour tout le monde. D'abord, pour les chercheurs qui s'attendaient à voir des Néandertaliens, des paléogénéticiens. Et pour nous, chercheurs, on ne s'attendait pas du tout qu'il y ait quelque chose d'autre que des Néandertaliens ou des Homo sapiens dans les niveaux supérieurs de la grotte.
On découvre donc qu'une autre population humaine a vécu dans cette région en même temps que des groupes Néandertaliens. Puis depuis cette découverte, Jean-Jacques Hublin, on a des analyses génétiques qui ont permis de débusquer d'autres fossiles et de les réattribuer à cette espèce.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Denisoviens, malgré leur nom tiré de la grotte de Denisova, leur capitale, c'est pas la grotte de Denisova. Donc, on est plutôt sur un poste frontière en fait, hein, entre le monde des Néandertaliens et le monde des Denisova. C'est alors pour ça qu'on trouve les deux de façon, alors pas simultanée vraiment, mais en alternance, on va dire. En fait, le monde des Denisoviens, c'est plutôt tout le sud de l'Asie, l'est de l'Asie, depuis l'océan Indien jusqu'à la Sibérie et jusqu'à la mer du Japon. Et en fait, assez vite a émergé l'idée qu'en fait, ces Denisoviens, bien que à Denisova, on n'ait pas de fossiles très spectaculaires, eh bien, on les avait peut-être quand même dans nos tiroirs. Hein. Et pourquoi ? Parce que on a en particulier en Chine très nombreux fossiles qui ont été trouvés, dont l'âge correspond à peu près à l'âge des Denisoviens. Alors l'âge des Denisoviens, c'est entre 450 000 et 50 000, hein, à peu près. Et pourquoi on pense que ces fossiles chinois peuvent être des Denisoviens ? Bien parce que dans le génome des hommes actuels, c'est plutôt dans le sud-est asiatique, en Nouvelle-Guinée et même en Australie, qu'on trouve une contribution d'ADN de Denisovien, qui est dû à des hybridations, des contacts entre les ancêtres des Asiatiques actuels ou des Australiens actuels, et puis des Denisoviens. Et donc, il faut bien que ces Denisoviens, ils aient existé quelque part sur le chemin des ancêtres des Australiens actuels, enfin des aborigènes australiens actuels, entre l'Afrique et puis l'Australie. Et donc, on se met à l'époque à chercher les Denisoviens en dehors de la Sibérie et de l'Altaï.
Et dans nos tiroirs, justement, sur ce vaste territoire que vous venez de décrire, Sylvana Condemi, on trouve une mandibule, un fragment de mandibule au Tibet et une molaire au Laos. Ça reste assez peu de fossiles encore.
Au départ, ouais. On ne trouve que ça, mais il faut dire que la mandibule qui a été trouvée de Chahé, donc au Tibet, on soupçonnait qu'elle pouvait faire partie de cette population denisovienne, parce que quand les paléogénéticiens ont travaillé et sur le séquençage de Denisova III, donc cette petite fille dont parlait Jean-Jacques Hublin, eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait un gène qu'on ne s'expliquait pas très bien, qui est un gène d'adaptation à l'altitude. Or, Denisova se trouve à 700 mètres. Et on s'était demandé pourquoi, à 700 mètres d'altitude, il fallait ce gène. Donc, on se doutait bien qu'ils avaient peuplé un vaste territoire. Et donc, cette mandibule de Chahé qui avait été trouvée une vingtaine d'années auparavant, a été donc reprise en main. Et encore une fois, notre collègue Jean-Jacques a joué un rôle important. Et donc, a été réétudiée. Alors, c'est une hémimandibule qui a été étudiée. Il y a une dent qui ressemble énormément aux dents qu'on connaissait à Denisova. Et ces dents sont assez particulières. Les dents des Denisoviens sont vraiment avec des surfaces occlusales. La partie masticatrice de la dent est très, très grande. Beaucoup plus grande que nos dents à nous, nos molaires à nous, ou que les molaires des Néandertaliens. Donc, il y avait déjà des indices. On voyait très bien, par la forme de la mandibule, que c'était une mandibule primitive. Et alors là, a commencé ce qu'on va faire et qu'on continue à faire aujourd'hui, c'est de revenir dans l'endroit où a été trouvée la mandibule, d'essayer de faire des prélèvements dans la grotte, dans les sédiments, pour voir, parce qu'aujourd'hui on fait des miracles, il faut voir qu'aujourd'hui on trouve de l'ADN dans les sédiments. Donc, pour voir si on arrive à trouver de l'ADN dans les sédiments, si on peut trouver sur la mandibule, peut-être pas de l'ADN, mais au moins des protéines qui sont semblables à celles qu'on avait déjà de cette petite fille de Denisova III, et commence cette recherche incessante de fossiles. Donc, on a eu très très vite à la fois Denisova, à la fois cette grotte Bachilla avec la mandibule de Zaé et a commencé une course pour réétudier tous les fossiles chinois et surtout essayer de comprendre quelle était cette population, son étendue géographique et surtout quand elle avait peuplé le nord de l'Asie plutôt que le sud, etc., etc.
Et tous ces fossiles chinois, autre reprise en main, et c'est l'actualité de cet été. En juin, on a réattribué ce crâne de Harbin, l'homme d'Harbin, un crâne vieux de 146 000 ans. Et grâce justement au protéome et à l'ADN de ce crâne, on en conclut voilà, une appartenance indiscutable à l'espèce de Denisova, Jean-Jacques Hublin.
Oui, alors ce crâne de Harbin, donc dans le nord de la Chine, c'est un crâne très spectaculaire. C'est un crâne qui est très très bien conservé. Alors quand on dit on ne connaît pas le visage de l'homme de Denisova, je pense que là pour le coup c'est probablement un des hominines fossiles dont on connaît le mieux le visage. On a un crâne qui est très très bien conservé. Alors ce crâne il a une origine qui est un petit peu obscure. Il y a toute une histoire autour de sa découverte dont je suis pas persuadé qu'elle est véridique. Très bien, on l'a, c'est ce qui compte. Et ce crâne, au début, les chercheurs chinois, en particulier le chercheur qui s'appelle le docteur Ni, qui a étudié ce fossile, nous l'a vendu comme une nouvelle espèce, qu'il a appelée Homo longi. Et il faut dire que, dans le fond, une partie des scientifiques chinois n'ont pas été très... enthousiaste pour reconnaître des Denisoviens en Chine. Donc, on peut en discuter plus tard, il y a des raisons à cela, mais on nous l'a vendu comme une espèce nouvelle. Mais il se trouve que depuis la découverte, enfin la description de ce fossile, on a pu faire de l'ADN ancien sur ses dents, on a pu extraire des protéines. Et donc, on retrouve ce qu'on a retrouvé dans d'autres sites. Alors, à Denisova, à Bachilla Karst Cave, donc au Tibet. Et puis, dans d'autres sites maintenant en Chine. C'est-à-dire, en fait, par des moyens moléculaires, réussir à identifier ces Denisoviens. Alors, soit parce que... Alors ça, c'est très difficile parce que l'ADN ancien se conserve pas très bien dès qu'on sort des régions un peu froides. Donc l'ADN, on essaie d'en trouver, c'est assez difficile en dehors du Tibet ou de Denisova, mais on a des protéines dont la structure est codée dans l'ADN, et donc on peut, si je peux dire, traduire des structures de protéines sous forme d'une séquence d'ADN et comme ça faire indirectement un rapprochement avec d'autres Denisoviens. Donc de proche en proche, on a maintenant 4 ou 5 sites où on a de façon assez formelle identifié ces Denisoviens.
Et voilà comment on met la main petit à petit sur ces fossiles. Maintenant, quelle information peut-on tirer d'un crâne ? On poursuit avec notre archive du jour.
Un examen, même superficiel, d'un crâne de néandertalien, comme celui de l'homme de la chapelle aux seins que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas, montre tout de suite que ce type est assez différent d'un crâne d'homme moderne, même si je prends comme forme de comparaison un moderne très primitif, cet Australien par exemple. On voit tout de suite que le néandertalien se distingue de l'homme moderne par ses formes brûlées susorbitaires. Il se distingue également par cette absence de front, un front très bas en tout cas. Il s'en distingue aussi par l'allongement du crâne dans sa région postérieure, région occipitale, comme disent les anatomistes, allongement qui est bien supérieur à celui d'un crâne de type moderne. La face se projette en avant, il y a ce qu'on appelle un prognathisme facial. Quant à la mandibule, même si c'est une mandibule très évoluée comme celle de Rigourdou, elle se distingue d'une mandibule d'homme moderne par l'absence de menton. Au fond, dans cette évolution humaine, les deux caractères anatomiques qui apparaissent, semble-t-il, seulement avec l'homme moderne, c'est le front élevé et le menton.
Voilà un entretien avec le paléontologue Jean Piveteau. Vous l'avez reconnu, vous êtes collable. Un entretien diffusé sur la RTF en 1963. Voilà, on entendait la différence entre un crâne d'homme de Néandertal contre celui d'Homo sapiens, Sylvana Condemi. Quelle différence alors entre le crâne d'un homme de Denisova et le crâne d'un Néandertalien?
Alors, il y a sans doute des différences, simplement par le fait qu'elles ont vécu. Ils ont vécu dans deux régions géographiques différentes, dans deux climats différents, même si au nord de l'Asie, c'est à peu près le climat de l'Europe. Mais les Denisoviens du sud, ceux qui vivaient dans le sud, dans le sud-est asiatique, devaient être très différents. Mais ce qui est important, pour reprendre un peu ce qu'a dit le professeur Jean Piveteau, c'est que tous ces fossiles, que ce soit néandertaliens ou dénisoviens, ont des mandibules sans menton. Le menton est vraiment le caractère d'Homo sapiens par excellence. Après, au niveau de la face, puisque aujourd'hui nous avons ces très belles faces du crâne de Harbin, et par rapport à Néandertal, il y a des différences très importantes entre les deux groupes. C'est-à-dire, la face des néandertaliens a vraiment, encore une fois, ce prognatisme mi-facial, c'est-à-dire que la face, tout le crâne avec la face est développé en, comme si on l'avait tiré de l'avant vers l'arrière, voyez. Et ce qui, quand on regarde notre face à nous d'Homo sapiens, si on regarde un crâne, ben la face des Homo sapiens se trouve sous le crâne cérébral. Ben, chez Harbin, c'est pas tout à fait comme sapiens et c'est pas vraiment comme Néandertal. C'est-à-dire, il n'y a pas ce prognatisme mi-facial qu'on observe chez les Néandertaliens, mais bien sûr, il y a épais bourrelets susorbitaires, c'est-à-dire qu'au-dessus des orbites, il y a une sorte de barre, de barre osseuse. Mais la grande différence vraiment entre les deux, Néandertal et Denisova, c'est au niveau de la face, parce que à part le fait que la face est moins en avant, il y a sur la face un creux qui existe également chez nous, sapiens, alors qu'il n'y a pas ça chez les Néandertaliens. Ce creux, on l'appelle d'une façon un peu technique, la fosse canine. Mais voilà.
Jean-Jacques Humblin, comme les Néandertaliens et les Denisoviens sont des espèces cousines, on imagine aussi que d'un point de vue morphologique, elles étaient probablement, enfin, l'homme de Denisova a dû être peut-être avec une carrure trapue et robuste, comme ce qu'on se représente des hommes de Néandertal. Ouais.
Oui, alors il faut bien comprendre, alors peut-être au risque de me répéter, hein, qu'on a, dans l'histoire des hominines du dernier million d'années, on a une première grande division entre des formes africaines et puis des formes eurasiatiques. Donc les formes africaines sont les ancêtres de l'homme actuel, hein, qui sont sortis d'Afrique beaucoup plus tard. Et puis donc des formes eurasiatiques qui, elles, vont se diviser plus tard en deux branches. Une branche occidentale, qui est l'homme de Néandertal, puis une branche orientale, qui est ces hommes de Denisova. Donc, je vous dis tout ça parce que, concrètement, les hommes de Denisova et les Néandertaliens ont plus de relations de parenté, si je peux dire, que les ancêtres des hommes actuels. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément qu'ils se ressemblent beaucoup. Alors, ils se ressemblent par certains caractères. Alors, des caractères, vous l'avez dit, de robustesse, des choses comme ça, qu'on trouve en fait chez beaucoup d'hominines archaïques. Il y a des détails anatomiques qui les rapprochent. Par exemple, l'intérieur de l'os temporal contient un organe qu'on appelle le labyrinthe. C'est l'oreille interne, en fait, ce qui nous sert d'un système d'équilibrage de notre corps et de visualisation, de perception du mouvement. Ils se ressemblent pas mal, finalement, entre Néandertal et Denisovien. On a d'autres caractères comme ça qui les rapprochent, mais comme Sylvana l'a expliqué, la face des Néandertaliens est très très particulière, hein, très, on dit dérivée, hein, ça veut dire qu'elle a dérivé dans une direction très très particulière. Et donc ça explique aussi que parfois, pour certains caractères, les Denisoviens, dans le fond, ressemblent un peu aux ancêtres des sapiens, hein, puisque eux, ils n'ont pas ce caractère très très particulier. Alors cela étant dit, on a au sein des Denisoviens des bizarreries anatomiques, en particulier dentaires, qu'on va trouver sur tout un tas de fossiles en Asie. Par exemple, plusieurs spécimens à Denisova, au Tibet, aussi d'autres spécimens découverts en Chine et même à Taïwan, ne présentent pas de troisième molaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de dent de sagesse. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de dent de sagesse, mais il y a plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'années, c'était quelque chose de très, très rare. Et là, on le trouve assez systématiquement. Et ça explique d'ailleurs pourquoi ils ont des molaires aussi grosses, hein, puisqu'ils en ont que deux par demi-mâchoire. Hein, donc, elles ont besoin d'être très grosses. Il y a des caractères, des racines dentaires, des choses comme ça qu'on va retrouver chez tous ces spécimens. Et donc, ils montrent qu'ils partagent une parenté. Alors maintenant, encore une fois, on a aujourd'hui de plus en plus de fossiles chinois, mais on soupçonne, on est même assez persuadé qu'il y a eu des Denisoviens ailleurs en Asie, et peut-être assez différents des Denisoviens chinois. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi il ressemble.
On reviendra dans quelques instants sur ces questions, mais je voulais vous interroger également, Sylvana Condémy, sur cette restitution, cette reconstitution de visage. Voir ça de votre point de vue, est-ce que c'est quelque chose, je ne sais pas, d'émouvant, de curieux? Quelle valeur ça a à vos yeux?
Ah ben c'est, écoutez, très émouvant, parce que jusqu'à présent, des Denisoviens, on avait des soupçons de fossiles que sans doute pouvaient être rattachés à cette espèce fossile, mais on n'avait pas vraiment de véritables fossiles. Et comme Jean-Jacques l'a dit, c'est un fossile spectaculaire, dans un état de conservation remarquable. On en rêve de fossiles comme ça. Hein. Et c'est-à-dire, il est complet, il a la face, il a la base du crâne, il a tout ce qu'il faut. Donc, c'est extrêmement émouvant. Et il y a quelque chose qui vraiment est intéressant dans ce fossile, c'est que, et c'est quelque chose qui interpelle un peu, c'est que ce sont des fossiles qui ont une face relativement, surtout quand on compare avec Néandertal, des faces relativement plates et larges.
Et vous, Jean-Jacques Hublin, cette reconstitution de visage, comment vous le...
Oui, alors on a, on a des méthodes hein, de reconstitution du visage. C'est-à-dire qu'on sait, dans le fond, reconstituer les masses musculaires, couvrir tout ça de peau, et on arrive à se faire une assez bonne idée de la tête que pouvait avoir un Néandertal ou un Denisovien ou un Sapiens très ancien. Alors évidemment, il y a aussi des aspects qui sont plus difficiles à reconstituer. Ce qui est de l'ordre de l'expression... la texture de la peau, les cheveux, des choses comme ça. Quand on remonte dans un passé lointain, c'est plus difficile, sauf si on a de l'ADN. Parce que l'ADN, pour des périodes récentes de la préhistoire, donne des informations assez précises sur la couleur de la peau, la couleur des yeux, etc. Mais donc, il y a toujours une dimension... artistique aussi hein, dans ces reconstitutions, et donc il faut, enfin, c'est un peu la poésie de notre discipline aussi, il faut l'accepter.
Sylvana Condémy.
Oui, justement, parce que peut-être ça peut intéresser, Denisova III, les paléogénéticiens avaient montré qu'elle avait les yeux noirs, les cheveux noirs et la peau foncée. Donc ça peut donner quand même à Denisova, on ne s'attend pas vraiment à ça. Et dans mon laboratoire, il y a une étude qui a été faite sur la distribution des graisses qu'on connaît par le génome de Denisova. Et donc on pense que les Denisoviens devaient avoir des lèvres assez épaisses, au moins ceux du sud, avec des distributions des graisses autour de la bouche, un peu comme on voit dans les populations du sud-ouest. Parce qu'on retrouve exactement ces deux gènes qui sont impliqués dans la distribution des graisses qu'on voit chez les populations du sud-est asiatique. Donc ça peut donner une idée de comment ils étaient.
Voilà en tout cas les méthodes pour reconstituer des visages du passé vieux de 450 000 à 50 000 ans. Maintenant, quelles sont les méthodes de la paléogénomique et de la paléoprotéomique et leurs limites? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En En direct sur France Culture avec Sylvana Condémy et Jean-Jacques Hublin, nous parlons de l'homme de Denisova, cet hominine archaïque de l'Asie, de ce grand territoire que l'on vient de décrire ensemble. On vient de parler des premiers fossiles de son ADN. Parlons à présent maintenant des méthodes d'analyse. Jean-Jacques Hublin, on l'a dit, c'est une espèce qui a d'abord été découverte par son ADN, au départ, dans la paléogénomique. L'ADN mitochondrial était très important. Pourquoi a-t-on autant insisté sur l'ADN mitochondrial dans les premiers temps de la génétique?
Alors, il faut bien comprendre que, en fait, nous sommes porteurs de deux ADN. Voilà. Alors, il y a l'ADN de nos chromosomes. Hein, c'est celui qui, dans le fond, code nos caractères, code notre développement. Et chaque individu est porteur d'une moitié d'ADN qu'on appelle nucléaire, hein, celui des chromosomes, celui du noyau des cellules et qu'on trouve dans les gamètes. Donc une moitié qui vient de papa et une autre moitié qui vient de maman. Alors il y a un autre ADN qui se trouve dans les cellules qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Alors c'est quoi cet ADN mitochondrial? En fait, dans les cellules, il y a des petites organites qui ressemblent à des bactéries et dont on pense en fait que ce sont d'anciennes bactéries qui ont été, si je peux dire, absorbées, incorporées par les cellules des êtres eucaryotes, hein, avec des cellules à noyaux, et que donc on a incorporé. Pourquoi? Parce que elles aident à notre fonctionnement métabolique. Et donc ces bactéries qui ont été incorporées, elles avaient elles aussi leur ADN. Hein. Et cet ADN, bah, c'est un ADN très simple, beaucoup plus simple que le nôtre. Et cet ADN, on en trouve beaucoup plus de copies à l'intérieur de chaque cellule, pas de l'ordre de 200 copies, alors que notre ADN nucléaire, celui de nos chromosomes, on trouve que 2 copies dans chaque cellule. Donc quand on pêche de l'ADN à partir de fossiles, on trouve beaucoup plus facilement de l'ADN mitochondrial que l'autre. Puis alors, surtout, cet ADN mitochondrial, il est assez facile à séquencer. Il est très simple. Et puis, alors, il a une autre propriété, c'est que les spermatozoïdes ne contiennent pas de ces fameuses anciennes bactéries, ces mitochondries. Et par contre, on en trouve dans les ovules. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que l'ADN mitochondrial que nous possédons, c'est pas une moitié qui vient de papa et une moitié qui vient de maman, c'est que celui de maman. Et donc, on peut reconstituer de façon assez facile des lignées maternelles, puisqu'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de recombinaison à chaque génération. Oui. C'est pour ça qu'au début, quand on a commencé à séquencer de l'ADN et qu'on a essayé de construire des arbres phylogénétiques, hein, c'est des arbres d'ancêtres, de descendants, de parents, de cousins, eh bien, on s'est beaucoup appuyé sur l'ADN mitochondrial.
Mais alors, cet ADN mitochondrial, on voit en effet tous les avantages que ça représente, mais il y a aussi des limites qui sont apparues plus tard, enfin que ça posait
un
certain nombre de problèmes.
Ah oui, l'ADN mitochondrial, comme je vous l'ai dit, il ne se recombine pas. Et donc, par exemple, si on a un phénomène d'hybridation, un phénomène de même simplement de contact assez, j'allais dire, modeste entre deux groupes, et même parfois entre deux espèces proches, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver l'ADN mitochondrial des uns ou des autres, mais on peut pas trouver les deux en même temps dans la descendance. Et donc, on a un certain nombre d'exemples comme ça, on appelle ça une introgression, hein, c'est-à-dire une entrée de l'ADN mitochondrial d'une espèce dans une autre espèce, et ça s'est produit à de multiples reprises au cours de l'évolution. Et donc, à cause de ça, on peut parfois reconstituer des arbres qui sont faux, en fait, et qu'on arrive à corriger quand on a alors l'ADN nucléaire, l'ADN des chromosomes, celui qui est beaucoup plus compliqué à analyser, mais qui, lui, garde des informations sur tout ce qui s'est passé dans le passé.
Et puis des fois on ne pêche pas de l'ADN comme vous dites, mais on pêche. On pêche des protéines. Merci. Des protéines, et c'est ce qu'on a réussi à faire. D'ailleurs, c'est la première application de paléoprotéomique avec cette fameuse mandibule de Chiae, Sylvana Condemi. Et on voit que la paléoprotéomique, c'est aussi une des grandes avancées de ces dernières années dans la discipline.
C'est-à-dire que la discipline dans son ensemble, la paléanthropologie n'est plus la paléanthropologie qu'on faisait il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est-à-dire, il faut voir que par rapport à d'autres disciplines, la philosophie, l'astronomie, la paléanthropologie est une discipline jeune. Donc, on est en train encore de bâtir nos outils, nos méthodes, nos techniques. Et la protéomique, comme a expliqué Jean-Jacques tout à l'heure, on essaie de trouver des protéines. Dans ces restes osseux, on en trouve dans les dents également, qui nous permettent de remonter à l'ADN. Et vu qu'on a des séquences qui sont bien claires d'ADN néandertalien, denisovien et d'ADN humain de nous sapiens, on peut faire des rapprochements et voir plutôt la tendance. Dans le cas de Harbin, c'est ce qui a été fait au départ, même si on a trouvé de l'ADN mitochondrial ensuite.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ADN, c'est merveilleux, mais ça ne se conserve pas pour toujours.
Ça se dégrade vite.
Et voilà, l'ADN se dégrade au fil du temps, surtout quand la température est élevée. Donc les ADN très anciens qu'on a, ceux qui ont plusieurs centaines de milliers d'années, voire au-delà du million d'années, c'est toujours dans des zones très froides. Alors les protéines, elles sont beaucoup plus résistantes. Et donc, on a des protéines comme le collagène. Hein, tout le monde connaît le collagène qu'on a dans la peau. Eh bien, le collagène, on a du collagène qui a plusieurs millions d'années, et même dans des régions tropicales. Et donc, c'est quelque chose qui est éminemment précieux. Alors, encore une fois, il faut aussi se rendre compte des limites de cette technique-là. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, ces protéines sont quoi ? Ce sont des chaînes de petites molécules qu'on appelle des acides aminés, une sorte d'alphabet qui est codé dans l'ADN. Donc, quand on a le codage, la séquence de ces acides aminés dans une protéine particulière, eh bien, on peut reconstituer un tout petit bout de la séquence correspondante sur notre ADN. Mais un tout petit bout, c'est ça le problème. Et donc, c'est une information qui est très partielle. Mais c'est extrêmement précieux et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé maintenant pour ces fossiles qui sont un petit peu au-delà de la frontière de l'ADN fossile.
Mais Sylvana Condemi, qu'est-ce que justement ces progrès en paléogénétique nous apprennent-elles sur les divergences et les croisements entre les différentes espèces humaines dans cette région ?
Dans ce continent, on peut dire. C'est-à-dire qu'on est en train de réécrire vraiment l'histoire de la paléanthropologie. C'est-à-dire que, imaginez-vous que jusqu'en 2010, les paléanthropologues en étaient encore à discuter d'une espèce asiatique qui s'appelait Homo erectus. Et on voyait ces espèces asiatiques, les plus anciens Homo erectus qu'on connaît en Asie, ont 1,3 million. Et on avait des Homo erectus qui devenaient de plus en plus évolués, jusqu'à avoir des Homo erectus qui avaient 200 000 ans, 100 000 ans, ce qui était absolument impossible à imaginer. Vous voyez, une espèce qui, sur 1 300 000 ans, a évolué comme ça, sans se diversifier sur un espace aussi grand, un territoire aussi grand, c'était impossible. Donc la paléogénétique nous a permis, même si c'est pas toujours le cas, nous a permis d'individualiser une nouvelle espèce et de pouvoir quand même nous rendre compte qu'en Asie, comme en Europe, il y avait eu des successions de populations ou même des populations qui ont vécu côte à côte. On ne sait pas trop bien, par exemple, quand a disparu Homo erectus. Est-ce qu'Homo erectus avait complètement disparu à l'époque où il y a déjà Denisova ? Est-ce qu'il y a des poches où il restait des Homo erectus ? Est-ce que, par hasard, il n'y a pas eu encore d'autres espèces ? Par exemple, on sait que dans le sud-est asiatique, dans certaines îles, comme l'île de Flores, on a une espèce qu'on appelle l'homme de Flores. À Luzon, on a une autre espèce. Mais est-ce que dans ce grand continent, il n'y avait pas des poches où il y avait d'autres individus? Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, nous sommes habitués à des populations qui ont un très, très grand effectif. Ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, s'il n'y a pas des grands effectifs, les populations ont suffisamment pour pouvoir vivre dans un territoire sans se déplacer énormément.
Voilà, l'homme de Flores découvert en 2003 sur l'île du même nom en Indonésie, une espèce insulaire, un humain d'un mètre de haut en moyenne. On va continuer à parler justement de ce continent asiatique qui a longtemps constitué, comme vous le disiez, un angle mort dans notre compréhension de la lignée humaine. Comment comprend-on ce peuplement de l'Asie-Paléolithique et pourquoi y a-t-il eu des Denisoviens en Chine? Restez avec nous. En direct sur France Culture, car nous parlons de l'étude des os et du crâne de l'homme de Denisova en compagnie de nos deux invités du jour, Sylvana Condemi, paléanthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS de l'équipe ADES, Université d'Aix-Marseille, et Jean-Jacques Hublin, paléanthropologue, professeur au Collège de France, à l'Institut Max Planck et membre de l'Académie des Sciences. On vient de voir que l'homme de Denisova, comme tel qu'on le connaît, n'en est qu'à ses débuts. On est au début, au balbutiement de cette découverte et de cette rencontre, de cette nouvelle espèce humaine. Jean-Jacques Hublin, à quoi remonte la divergence entre l'ancêtre des sapiens, les ancêtres des Denisoviens et les Néandertals?
Alors on a une première divergence entre les ancêtres africains de l'homme actuel et puis toutes les formes eurasiatiques dont on parle, qu'une divergence, alors c'est une date qu'on a établie par la génétique, hein. Donc c'est une estimation, on met ça entre 750 000 et 550 000 par là, hein. Mais c'est un peu à la louche, hein. Les gens qui pensent que c'est peut-être un peu plus vieux, d'autres que c'est plutôt récent, plus récent. Mais il y a cette première divergence. Puis ensuite, au sein des formes eurasiatiques, on va avoir cette... en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est un isolement par la distance entre... ceux qui sont à l'extrémité de l'Asie et puis ceux qui sont en Europe ou au Proche-Orient. Et là, on a une divergence qui est autour de, on estime autour de 450 000. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la paléogénétique, ça représentait une avancée absolument extraordinaire. Tout à l'heure, j'ai donné des caractères morphologiques qui permettait de différencier les Denisoviens, des Néandertaliens, des sapiens anciens. Mais il faut bien voir quand même que quand on descend en granularité, si je peux dire, quand on commence à s'intéresser à des unités de population, des groupes plus petits, plus, comment dire, subtilement divisés dans nos arbres phylogénétiques. Là, la paléogénétique est quand même incroyablement supérieure à ce que peut offrir la morphologie. Et d'ailleurs, il faut aussi souligner le fait que la paléogénétique apporte des informations tout à fait inespérées hein, sur tous ces fossiles. Pourquoi ? Parce qu'on a accès à leurs relations de parenté, parenté de groupe, hein. Mais on a aussi accès à des informations démographiques sur la taille des groupes, comment ils ont fluctué en taille au cours du temps. On a des informations sur les structures de la parenté à l'intérieur des groupes. C'est-à-dire qu'il y a des sites, en particulier dans l'Altaï, on a un site néandertalien où on a les ossements d'un papa et de sa fille. Si on n'avait pas l'ADN, on ne pourrait pas établir ça. On peut même établir, toujours dans ce site, que les hommes qui vivaient là étaient apparentés entre eux. Par contre, les femmes venaient de l'extérieur. Vous voyez, des choses tout à fait extraordinaires en termes de reconstitution des comportements anciens.
Et d'ailleurs, ce que la paléogénétique nous apporte également comme information, c'est sur ces mouvements de population, Sylvana Condemi. Comment sait-on redessiner ces mouvements des Denisoviens, de ces anciennes populations-là?
C'est-à-dire que dans le site, par exemple, de Denisova, on a pu voir qu'il y a eu des périodes où il y avait des occupations denisoviennes et des occupations néandertaliennes. Vous voyez, c'était peut-être pas vraiment contemporain complètement, mais il y a eu des saisonnalités dans lesquelles la grotte est occupée par les uns ou par les autres. Donc, forcément, c'était un territoire dans lequel les deux populations pouvaient se rencontrer. Et d'ailleurs, à Denisova, il y a quelque chose d'assez miraculeux qu'on a pu trouver. C'est un petit fragment osseux qu'on appelle Denisova 11, qui est un fragment d'une jeune fille, encore une fois, dont le père était Denisovien et la mère est néandertalienne. Et voyez, ça montre que, peut-être pas d'une façon massive, mais ces groupes se sont rencontrés, ont échangé également leurs gènes. Et on sait également que, ensuite, bien plus tard, au moment où arrivera Homo sapiens en Europe et en Asie, Homo sapiens s'est mélangé avec Néandertal et Homo sapiens s'est mélangé avec Denisova. Et donc, vous voyez, on peut suivre par la génétique également, les contacts qu'il y a pu y avoir avec ces populations, le fait qu'elles se sont rencontrées, le fait qu'elles ont échangé les gènes. Et encore aujourd'hui, dans les populations actuelles, nous, Européens, nous avons tous un peu de gènes, très très peu, néandertaliens.
2% en moyenne. Hein.
Voilà. Et les populations asiatiques, on garde des gènes de Denisova à des pourcentages différents selon l'endroit géographique. Par exemple, dans le sud-est asiatique, il y a plus de gènes denisoviens que dans la Chine continentale, l'Asie continentale. Mais c'est très, très intéressant parce que l'ADN nous raconte pas simplement sur nos rencontres avec des autres humains, mais également présente également des adaptations au climat, aux pathogènes que ces humains ont pu rencontrer. Et donc tout ça est inscrit dans le patrimoine génétique et comme disait Jean-Jacques, c'est miraculeux parce qu'on arrive à reconstruire des choses qui, au niveau des os et des dents simplement, ce qui était la paléoanthropologie traditionnelle, eh bien, c'était pas très facile à faire.
Alors, vous dites, ce sont dans les îles d'Asie du Sud-Est où l'empreinte génétique de Denisova est la plus marquée. Comment ça s'explique, ça? Quelles sont les hypothèses?
Alors, écoutez, il y a eu beaucoup d'hypothèses. Au départ, vous savez, c'est très intéressant, parce que quand il y a eu la première publication en 2010, on avait cette publication de Denisova, qui est donc dans l'Altaï, dans le sud de la Sibérie. Et quand on examinait avec 5 Homo sapiens actuels, étrangement, c'était ceux de la Papouasie qui avaient le plus de gènes de Denisoviens. Ça paraissait un peu bizarre. Aujourd'hui, on l'explique d'une façon très très simple. D'ailleurs, il y a un autre génome qui vient d'être publié, Denisova 25, et qui réexplique encore bien cette histoire. C'est que quand Homo sapiens est sorti d'Afrique, eh bien, il a colonisé l'Eurasie, et en particulier l'Asie. Et il y a une branche, sans doute la branche la plus ancienne, qui est allée dans le sud-est asiatique. Et donc, ces populations du sud-est asiatique sont des populations qui étaient aussi clairsemées dans des îles. Donc, c'est là que peut-être il y a eu moins de contact avec d'autres populations du nord. Et on sait aujourd'hui qu'au moment où Homo sapiens est sorti, il est sorti pas simplement par le sud, mais aussi on la voit par le nord de l'Himalaya. Donc, vous voyez, il y a eu, selon les endroits où les Homo sapiens se sont trouvés, se sont mélangés, il y a eu des pourcentages différents de gènes dénisoviens.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, dans le fond, ces phénomènes d'hybridation, c'est la première vague. Donc, les premiers qui arrivent, qui sont au contact de populations locales, ceux-là s'hybrident. Donc, il y a un peu d'ADN dénisovien ou néandertalien qui est récupéré, si je peux dire, et puis qui ensuite va rester plus ou moins présent en fonction de la suite des événements. Sur le continent asiatique, la suite des événements, c'est qu'il continue à y avoir d'autres arrivées. Et ces autres arrivées, elles ne rencontrent pas de Denisoviens. Elles rencontrent les descendants de la première vague, si je peux dire. Et donc, sur le continent asiatique, ce signal, il va être effacé de plus en plus. Donc, chez des Chinois actuels du nord de la Chine, on trouve à peu près 0,2% d'ADN Denisovien. Alors que dans des zones périphériques où il n'y a pas eu ces phénomènes d'arrivées successives et d'effacement du signal, donc c'est typiquement ce qui se passe en Mélanésie ou en Australie, là on peut trouver des individus qui ont 4-5% d'ADN dénisovien dans des populations actuelles.
Tout ça, ça signifie en fait que le fait de reclasser comme ça tous ces fossiles chinois, c'est une grande avancée, Jean-Jacques Hublin.
Oui, parce qu'il faut dire qu'on était assez embêtés avec les fossiles chinois.
On avait une pièce de puzzle manquante.
Non, c'est pas ça. C'est que, dans le fond, c'est un petit peu long peut-être à expliquer, mais d'abord, on a beaucoup de fossiles en Chine, parce que les Chinois sont des scientifiques qui ont été très actifs sur cette thématique-là. Donc depuis, disons, la Seconde Guerre mondiale, même avant d'ailleurs, on a trouvé beaucoup de fossiles en Chine. Beaucoup plus que, je sais pas, en Inde, par exemple, ou dans le sud-est asiatique. Là, on a beaucoup de fossiles chinois. Il faut bien comprendre que jusque dans les années 1980, début des années 80, le modèle qui était le modèle prédominant expliquant l'origine des populations actuelles, c'était un modèle d'origine locale. Donc, en gros, ce qu'on imaginait, c'est que dans différentes parties du monde, des formes très anciennes, comme des Homo erectus, avaient évolué localement pour donner les populations actuelles. Enfin, je simplifie énormément, mais c'était quand même ça l'idée. Alors, en particulier, les fossiles chinois ont été beaucoup utilisés pour défendre ce modèle. Alors, il se trouve que ce modèle, il a été mis en pièces dans les années 80, par des découvertes paléontologiques qui ont montré que des sapiens, il y en avait en Afrique et au Proche-Orient, qui étaient beaucoup plus anciens qu'ailleurs. Donc c'était sans doute là que se trouvait un lieu d'origine. Et puis surtout, des données venant de la génétique des populations actuelles, qui ont, je pense, établi de façon assez solide cette origine africaine. Alors, il faut dire que la communauté scientifique chinoise est restée très attachée au modèle d'origine locale, donc l'idée que les Chinois actuels descendent d'Homo erectus locaux, c'est une idée qui, encore aujourd'hui d'ailleurs, est assez soutenue par certains de nos collègues, pas tous. Et donc, ces fossiles que nous classons aujourd'hui dans les dénisoviens, ils étaient interprétés comme la case manquante entre les Homo erectus chinois et puis les Chinois actuels. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on est arrivé avec nos histoires de dénisoviens, ça a été un petit peu un chien dans un jeu de quilles, on n'avait pas tellement envie de les voir arriver. D'ailleurs, honnêtement, il y a eu beaucoup de publications dans les années, allez, entre 2010 et 2020, sur des fossiles chinois. Le mot dénisovien apparaissait pas tellement. Et maintenant, c'est en train de changer. Et d'ailleurs, les articles que vous citiez tout à l'heure sur l'homme de Harbin ont été publiés par une chercheuse chinoise qui s'appelle Fu Xiaomei et qui est une paléogénéticienne et qui a clairement établi que Harbin, c'était un dénisovien.
Voilà, merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On voit combien, justement, la science, la paléontologie est une discipline jeune qui continue de bâtir ses outils. Un grand merci. Tout de suite, on change complètement d'horizon. On part aux confins de la Voie lactée, là où la matière noire reprend l'avantage. C'est la chronique avec science d'Alexandra Delbo.
Pourquoi les étoiles au bord des galaxies ne ralentissent-elles pas? C'est une observation simple. Les étoiles à la périphérie des galaxies tournent trop vite. Pourtant, d'après les lois de la gravitation, plus une étoile est éloignée du centre, plus elle devrait ralentir. Et c'est normal. La force d'attraction diminue avec la distance. C'est ce qu'on observe d'ailleurs dans notre système solaire. La Terre tourne plus vite que Jupiter, Saturne ou Uranus. Mais à l'échelle galactique, dans notre Voie lactée, qui est un disque contenant 100 milliards d'étoiles, ces astres ne perdent pas de vitesse au fur et à mesure qu'on s'éloigne de son cœur. Alors, il manque quelque chose à nos lois physiques. C'est ainsi qu'a été proposée dès les années 30 l'existence de la matière noire. Quand on ajoute cette matière hypothétique en quantité 5 fois supérieure à celle de la matière ordinaire, celle qui nous fait nous, vous, moi, les planètes ou les étoiles, tout colle. Mais puisqu'elle reste invisible et insaisissable, certains physiciens imaginent des théories alternatives. Alain Blanchard est professeur à l'Université de Toulouse, chercheur à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, et membre de l'Institut universitaire de France.
On ne voyait aucun objet qui puisse être associé à cette matière noire. Certains ont envisagé qu'en fait, c'était un artefact. Et c'est possible si on suppose que les lois de Newton ne s'appliquent pas sur les distances de la taille d'une galaxie. On parle de centaines de milliers d'années-lumière pour la taille d'une galaxie. Donc évidemment, on n'a jamais testé les lois de Newton sur ces échelles-là. Donc si on modifie la dynamique, eh bien on peut rendre compte de ces courbes de rotation plates sans ajouter de composantes de matière noire. C'est la théorie monde qui veut dire Modify Newtonian Dynamics en anglais. Et c'est la théorie alternative, je dirais, la plus en vogue, on va dire, pour expliquer les courbes de rotation plates sans matière noire.
Selon la théorie monde, quand l'accélération devient plus faible, comme c'est le cas sur les bordures des galaxies, la gravité se comporte différemment. Vous comprenez donc que ce soit dans la théorie monde ou dans celle de la matière noire, il y a des ajustements. Il faut ajouter ou modifier quelque chose. La question, c'est qui a raison? Pour trancher ce débat, il faut tester et retester inlassablement ces deux hypothèses sur des données toujours plus précises jusqu'à ce que l'une d'entre elles finisse par vaciller. Et c'est le satellite Gaïa qui nous offre la cartographie la plus complète de notre galaxie. Dans le jargon, on l'appelle le DR3. Pendant plus de 10 ans, Gaïa a observé la Voie lactée sous toutes les coutures. Il a mesuré les positions, les distances, les mouvements de plus de 2 milliards d'étoiles. Et résultat de cette nouvelle étude parue dans Astronomy and Astrophysics, la vitesse des étoiles diminue en réalité un tout petit peu sur les bords, ce qui est incompatible avec la théorie monde.
On a pu mesurer le mouvement d'étoiles à des distances bien plus grandes que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et on a pu donc déduire la courbe de rotation de notre galaxie sur des parties très extérieures qu'on n'avait encore jamais explorées, presque un facteur 2, deux fois plus loin. Ce que l'on voit dans ces observations, c'est que la courbe de rotation de la galaxie décroît légèrement. Ce n'est pas une décroissance très forte. Hein. On passe de quelque chose comme 220 km par seconde à 180 km par seconde. Mais c'est quelque chose de nouveau, cette décroissance, qui avait déjà été un peu soupçonnée par des travaux précédents. Et donc, quand on ajuste les modèles de matière noire, eh bien, on arrive à reproduire la distribution de la vitesse de rotation, y compris cette partie décroissante. Pour Monde, on a essayé différents modèles, on a joué avec tous les paramètres possibles de ce qu'on avait dans les mains, et donc on a trouvé essentiellement qu'il n'y a aucune façon de reproduire correctement dans la théorie monde, cette courbe de décroissance de la courbe de rotation.
La matière noire gagne donc du terrain, mais vous l'avez entendu, la courbe de rotation est déduite des données de Gaïa, donc il y a une marge d'erreur. L'autre limite tient aux modélisations de ces théories. Si la dynamique galactique est en réalité plus complexe que nos modèles, eh bien on pourrait passer à côté de quelque chose. Cela ne signe donc pas encore la mort de la théorie monde, et d'ailleurs les sciences ne fonctionnent jamais comme cela. En revanche, comme on dit en bon langage scientifique, cela étaye le faisceau de preuves en faveur de la théorie de la matière noire, qui reste donc l'explication la plus cohérente à ce jour. Le satellite Gaïa est à la retraite depuis janvier dernier, mais toutes ces données n'ont pas encore été analysées. Un autre catalogue encore plus complet d'étoiles, le DR4, est attendu pour probablement l'année prochaine.
Merci Alexandra pour votre chronique. Et grande nouveauté de cette nouvelle saison sur France Culture, le fil Culture G. Chaque jour, c'est un coup de projecteur qui éclaire notre actualité philo, éco, histoire, science, numérique, pop culture. En 3 minutes 30 du lundi au dimanche, les meilleurs experts mettent notre monde en perspective. Et tout de suite, le fil science par Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle qui nous propose chaque mercredi l'Odyssée des Humains.
Sommes-nous les seuls à enterrer nos morts ? Pendant des dizaines de milliers d'années, l'espèce humaine s'est considérée comme la seule à enterrer ses morts. Pourtant, une découverte en 2024 a fait plus que relativiser cette affirmation. En Inde, les corps de 5 éléphantaux ont été retrouvés enterrés dans différentes plantations de thé et tous placés les pattes en l'air. On avait déjà observé que certains animaux adoptent des comportements particuliers envers leurs congénères morts ou mourants. Des réactions animales qui montrent qu'il existe probablement une conscience de la mort chez certaines espèces. Par exemple, les éléphants recouvrent le corps de leurs congénères par des branches ou des palmes. D'autres explorent avec leurs trompes les ossements d'éléphants qu'ils rencontrent dans la nature. Un comportement que les éléphants n'opèrent pas avec les ossements d'autres animaux. Et aussi chez les chimpanzés. Ils adoptent une attitude différente devant le corps d'un chimpanzé mort de maladie ou de vieillesse, une réaction de peur ou de fuite. Et il n'est pas rare d'observer une mère chimpanzé qui, au lieu d'abandonner le corps inanimé de son bébé mort, le conserve et le porte pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines. Ils ont donc bien conscience de la mort. Mais d'enterrement rituel chez les chimpanzés, aucun. Les humains, quant à eux, enterrent leurs morts depuis au moins 100 000 ans, bien avant qu'ils ne se sédentarisent et vivent dans des villages. Sur ces premières sépultures, pas de pierres tombales ou d'épitaphes. Du coup, pour les archéologues et anthropologues du terrain, c'est un challenge. Reconnaître l'intentionnalité du geste funéraire. Il s'agit de distinguer l'inhumation et la protection volontaire d'un défunt du corps tombé là et enseveli par hasard. Un peu plus tard dans notre histoire, on voit apparaître des dépôts d'objets, de parures, d'ocre, sur et autour des dépouilles. Et c'est quand les humains se sédentarisent au néolithique vers 10 000 ans avant notre ère qu'apparaissent les premières nécropoles. Les groupes humains se densifient, ils vivent désormais dans des villages. D'abord enterrés à l'intérieur ou à proximité des maisons, les morts vont progressivement être séparés du lieu de vie et regroupés entre eux. Au fil des siècles, chaque communauté déploie des moyens de plus en plus importants dans la mise en scène de la mort de ses morts. Ainsi apparaissent en Europe les premières sépultures monumentales, les fameux dolmens. Mais la sépulture n'est pas l'unique aboutissement du traitement funéraire. Les humains ont inventé de multiples manières de traiter les cadavres dans le respect des morts, des rites et des croyances. Et nombreuses sont celles qui ne laissent pas de traces. Corps exposés, brûlés, enterrés. Le traitement des morts indique une réelle dimension symbolique que l'on ne sait jusqu'ici pas mettre en évidence chez les animaux. Mais de plus en plus d'études montrent que plusieurs autres espèces que les humains ont bien conscience de la mort.
Merci Evelyne Heyer pour ce fil science et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Guillaume Fichu. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.